ça enregistre. On attend que ça s'allume. On avait parlé la dernière fois sur le petit sujet de la foi. Il y a des livres entiers hein, sur le sujet de la foi. Et on avait dit la dernière fois, on aurait pu faire toute une série d'études rien que sur le sujet de la foi. On avait terminé avec une liste de versets qui montraient un aspect différent de la foi. Et on avait juste lu ces versets en disant un ou deux mots, mais il aurait été facile de continuer et de continuer, mais ce n'est pas le but de ces études que nous on a ce soir, où depuis quelques temps, là, on fait ces études sur qu'est-ce que la Bible veut dire quand elle nous dit en Galates 5, 22 que nous devons être 25, 22, qu'on doit être rempli de l'Esprit, et qui ensuite nous parle du fruit de l'Esprit. Et on voit cette liste. Et là, on est en train de voir les trois dernières choses qui sont sur cette liste pas des fruits, mais du fruit de l'esprit. On a vu la foi. Et le prochain qui est sur la liste dans ce passage de Galates 5, 22, c'est celui de la douceur. Donc, la douceur, utilisée ici dans Galates 5, 22, hein, est un mot qui veut littéralement dire amabilité ou même parfois humilité. Mais spécifiquement, humilité dans la façon qu'on traite les autres. C'est de cette douceur-là que c'est en train de parler. Que la manière que je traite l'autre, ben, je vais être doux, je vais être tendre. Même si je peux dire une vérité qui va être choquante ou une vérité qui peut être difficile à entendre, c'est pas parce que c'est vrai que j'ai besoin d'être choquant. Je peux être tendre envers l'autre personne. Et ça, je l'ai entendu à maintes reprises, même auprès de d'autres chrétiens. Il y en a un en particulier que je connais bien, qui a toujours une tête comme ça comparée à moi. Il a une connaissance du bout des doigts, il peut te citer ce que tu veux à n'importe quel moment. Mais il était toujours un peu quelqu'un d'un peu dur. Et sa réponse était, mais c'est la vérité. Si c'est la vérité, je peux le dire. Je dis, oui, mais la Bible dit, il faut dire la vérité avec amour. Et le fruit de l'esprit, c'est également la douceur. C'est de pouvoir dire la vérité avec amour, pas parce que c'est vrai que tu es obligé d'enfoncer l'autre avec ta vérité. Ça fait partie du fruit de l'esprit, c'est d'avoir cette douceur. Si vous voyez parfois le contraire de cette douceur dont il parle ici, c'est quelqu'un d'abrasif ou quelqu'un de contraire. On a tous rencontré des personnes qui sont contraires, n'est-ce pas? C'est ah, le ciel est bleu. Ah ben non, en fait, tu sais, le ciel il n'est pas bleu, c'est seulement le reflet des océans. D'accord, mais on se comprend. T'es pas oublié, c'est pas parce que c'est vrai que tu es obligé de le dire. Tu peux être cet esprit de douceur te dit, j'ai pas besoin de dire cela. Je comprends ce qu'il dit. Tu dis, ouais, c'est vrai, on a un beau ciel bleu aujourd'hui. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cela. Ils ont cet esprit contraire. Ah non, je suis obligé de te dire que non, j'ai envie de dire l'opposé. Et ça, on en connaît tous. Mais ce n'est pas le fait d'en connaître tous, c'est de nous ne pas être cette personne. Si on regarde à l'homme hein, dans son état pécheur, son état naturel, si Dieu le laissait tel qu'il est, on est forcé de constater que l'homme va être d'une manière naturelle, naturellement sera orgueilleux, l'homme sera naturellement hautain, l'homme sera naturellement arrogant, égoïste et égocentrique. Même les inconvertis ne se rendent pas compte à quel point l'influence qu'il y a dans ce monde du fait que le Saint-Esprit soit présent dans le monde. Et que l'homme n'aime pas l'admettre, parce que tout dans la société aujourd'hui, même dans les films et autres, c'est toujours « Ah, je crois dans l'homme parce qu'il y a du bon au fond de lui. » Je suis désolé, mais la Bible nous dit que le plus qu'on creuse, pour ainsi dire, au fond de l'homme, le plus qu'on trouvera de l'égoïsme, de l'arrogance, de l'égocentrisme, pas de l'amour pour son prochain, de l'amour pour soi. Et c'est l'une des raisons pourquoi nous pouvons voir une si grande différence quand une personne est naturellement comme cela et qu'il vient au Seigneur et qu'il accepte le salut. Il y a un changement radical dans son attitude envers les autres. Cette arrogance, cette fierté, cet orgueil est l'une des premières choses qui commence à changer d'une manière radicale. Parce que le Saint-Esprit vient dans lui et dit, hé, non, non, tu as maintenant une nouvelle nature en toi. Ça, c'est les choses passées, c'est les choses anciennes que tu laisses dans le passé. Voici maintenant les choses nouvelles auxquelles je veux. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à cette personne? Il était tellement fier et orgueilleux et hautain et contraire. Maintenant, c'est quelqu'un de doux. Même, j'ai presque envie de dire qu'il est quelqu'un de humble. Ça devient un témoignage parce qu'il y a une si force différence entre de ce qu'il était. Il devient même presque doux et même ouvert aux requêtes des autres. Alors qu'avant, c'est non, c'est toi qui dois m'écouter, moi je sais. Et maintenant, il dit, il est prêt à écouter ce que les autres ont à dire et avec un esprit enseignable. Et je crois qu'on peut tous être d'accord que le plus grand exemple d'une personne remplie de douceur qu'on a dans la Bible, c'est celui de la personne de Jésus-Christ lui-même. Et il fut le créateur, la Bible nous dit, de l'univers, et pourtant, il a accepté de s'humilier lui-même en prenant la forme d'un serviteur et de se soumettre même aux caprices de l'humanité et même, la Bible nous dit, de s'humilier, la façon que ça le dit, jusqu'à la mort de la croix pour nous, pour notre bénéfice. Et c'est un peu comme si moi j'avais le pouvoir de créer une fourmilière avec les fourmis et que moi je devienne une fourmi. Et qu'en sachant que je ne vais pas être la fourmi qui va dire aux autres fourmis ce qu'elles doivent faire. Mais que je vais vivre auprès des autres fourmis en sachant que je vais être rejeté, que je vais être humilié, que je vais être blasphémé. Et c'est ce que Christ a accepté de faire. Lui qui a tout créé et nous a créés, a dit « Je vais devenir ma propre création. Je vais vivre auprès de ma propre création comme l'un d'entre eux. » Et nous voyons ce créateur, le créateur des hommes, être battu par sa propre création, être ridiculisé par sa propre création, recevoir les crachats de la part de sa propre création. Et pourtant, quand on relit à travers les évangiles cette partie de la vie de Christ, de la crucifixion, il nous laisse laisser comme exemple celui qui n'a pas injurié en retour pour ce qu'on lui faisait. De ne pas se fâcher contre ses bourreaux, aussi bien les Juifs qui disaient à Pilate, « Lapidez-le, libérez Barabbas, lapidez Christ. » Il ne l'a pas fait non plus, il ne s'est pas fâché contre les soldats romains et autres qui ne sont pas retenus pour lui montrer du ridicule non plus et plus le mal. On le voit mettre en pratique ce que lui-même nous demande de faire, comme en Matthieu 5, 44, où il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et nous, on se dit, « Mais comment est-ce qu'on peut faire une telle chose ?» Et Christ, il a dit, « Je ne vous dirai pas cela si ce n'était pas possible. » Et je vous montre l'exemple. Je ne suis pas en train de vous dire, « Faites comme je dis, mais pas comme je fais. » Il dit, je vais vous permettre de faire comme j'ai fait, avec le fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit qui va faire mûrir et grandir en vous toutes ces capacités que je désire voir en vous qui étaient déjà en moi, y compris celui de la douceur. Une telle attitude de Christ est renforcée encore plus par le fait que on sait que lui, tout pouvoir lui a été donné. Toute autorité lui a été accordée. Ce n'est pas que Christ allait être le roi de ce monde, mais déjà à ce moment-là, et avant, et toujours aujourd'hui, il est déjà, depuis toujours, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et malgré tout, il a choisi, pendant toute sa vie terrestre, d'être doux, tendre, humble et compatissant. En Matthieu 26, 53 et 54, il nous dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Il avait l'autorité à n'importe quel moment, pas seulement quand il était cloué sur la croix, pas seulement avant quand il le battait de verge, mais n'importe quel moment de sa vie terrestre, quand il se moquait de lui, quand essayait de le tromper pour trouver des fautes en lui. Mais à chaque fois, il répond comment? On voit dans ses paroles, dans sa façon d'être, dans son manière d'être, une douceur. Ils amènent une femme devant lui qui mérite d'être lapidée selon les lois de Moïse. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps, il écrit par terre. Ce qu'il écrit par terre, ça n'a absolument aucune importance, c'est pour ça que la Bible n'en parle pas. Et ensuite, il répond que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il les attaque pas, il répond pas avec amertume, il répond pas avec arrogance, il répond pas avec Seigneur, envoie des boules de feu pour anéantir ces gens-là parce qu'ils m'énervent. Il aurait le droit de le faire. Il est le Créateur, tout pouvoir lui a été donné. Mais par amour pour nous, Jésus a choisi la douceur, encore et encore et encore, devant le ridicule, devant les moqueries, devant même le manque de foi parfois de ses propres disciples. Il choisit la douceur afin que nous ayons la vie éternelle. Christ a dit de lui-même en Matthieu 11, 29, je suis doux et humble de cœur. C'est sa propre définition de sa personne. Qui va contester ce que Dieu, ce que Christ dit de lui-même? Ah, mais non, tu vois, on revient à celui qui était l'esprit contraire. Celui qui a l'esprit contraire, quand il entend quelqu'un dire je suis comme ceci ou cela, ah ben il faut que je pense aux exceptions quand il ne l'était pas. Comme si l'exception remplaçait la règle. Quand Dieu dit je suis doux et humble de cœur, qui suis-je moi pour débattre avec Christ sur ce qu'il dit être de lui-même? Quelle arrogance de ma part! Mais il va de soi que si nous voulons montrer cette même douceur, surtout pendant les moments où notre propre chair voudra nous pousser à faire le contraire, par exemple répondre avec orgueil, répondre avec fierté, ben il est certain que nous avons besoin d'avoir de l'aide. On n'arrivera pas de le faire de par nos propres forces. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire ce qui est justement contraire à notre nature. Parce que notre nature, liée à elle-même, on l'a dit, elle est poussée vers l'orgueil, vers l'égocentrisme, vers l'arrogance. Mais la nouvelle nature que nous avons en Christ, le Saint-Esprit nous poussera vers celle-là. Mais il nous faut l'aide du Saint-Esprit pour cela. De par nous-mêmes, on en revient toujours à ce premier article, je. Alors si on va commencer avec le je, on doit le continuer avec je ne peux pas. Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas y arriver tout seul. Même si j'y arrive sur un laps de temps très court, ce n'est rien. C'est dans la continuité, c'est dans la régularité. C'est de pouvoir le faire régulièrement, chaque jour, de montrer cette douceur, de montrer tous les autres attributs de ce fruit de l'esprit qui compte, qui vaut quelque chose. Et Seigneur, j'ai besoin de toi pour m'aider avec cela. Et d'agir avec douceur, pendant qu'on est persécuté, ne sera jamais possible sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que la première chose, dès qu'on nous attaque d'une manière ou d'une autre, la première chose qui fait surface sera toujours notre orgueil, sera toujours notre fierté. On m'a fait ça à moi. Et on aura toujours besoin à ce que le Saint-Esprit vienne nous aider à mettre barrière à ce qui nous serait normal, à répondre avec fierté et orgueil. Et surtout quand on nous a fait du mal, et cela d'une manière, surtout si on veut le faire jour après jour. Peu importe les attaques, peu importe les mensonges, peu importe les moqueries, seul le Saint-Esprit peut nous aider à être fidèles dans la douceur que nous montrerons à ces moments-là. notre tendance naturelle sera toujours d'affirmer le moi, hein, mes droits. Le monde est très branché là-dessus. Hein, mes droits. Je suis désolé, mais le seul droit que j'ai, c'est celui de mourir en enfer. Ça, c'est mon seul vrai droit. C'est ce que je mérite. C'est par grâce qu'on est sauvé, au moyen de la foi, pas par mes œuvres. Mes œuvres m'ont déjà fait en sorte que je dois mourir et aller en enfer. Mes œuvres sont vouées à l'échec. Mais notre nature charnelle voudra toujours se dire, non, tu as des droits, tu as des besoins, tes émotions sont justifiées et justifiables. Et toujours est-il que même le tempérament le plus coléreux peut être contrôlé par la plénitude du Saint-Esprit. Le chrétien lui-même pourrait être surpris de la manière que le Saint-Esprit l'a aidé à faire face à une situation difficile, en gardant justement son calme et en répondant avec douceur au lieu de laisser parler ses émotions. On l'a dit dans le passé pour d'autres situations, mais très souvent, en tant que chrétien, on ne réalise pas à l'avance la grâce que Dieu va nous donner dans les situations spécifiques. Critique. Ah, si moi j'étais dans cette situation, je ne sais pas si j'aurais pu répondre comme tel ou un tel. Mais si on demandait à cette personne qui a répondu tel ou un tel, si tu m'avais demandé une semaine ou deux semaines avant, je t'aurais dit la même chose, je ne sais pas comment je répondrais devant une telle situation non plus. Mais au moment même, quand ça arrive, la personne qui est remplie du Saint-Esprit, contrôlée par le Saint-Esprit, il aura la grâce de pouvoir répondre avec douceur dans des situations où il pensait que c'était impossible. J'ai partagé dans le passé cette illustration, cette expérience auquel j'ai entendu le pasteur parler, où une personne qui conduisait sa voiture ivre est venue percuter sa petite fille sur leur gazon. Elle n'était pas dans la rue, elle était devant leur maison, dans leur gazon, et lui étant ivre, il est venu percuter la fille. Elle est morte sur le coup. Et pendant que le pasteur tenait sa fille morte dans ses bras, le conducteur sort, titubant, toujours ivre, bien entendu, et qui. Qui criait sur le pasteur, en disant que c'était sa faute au pasteur que sa fille est morte. Imaginez un peu, en tant que père, de tenir sa petite fille morte dans ses bras et que la personne qui est responsable de sa mort vienne t'accuser, toi, en disant que c'est ta faute. Mais de par son propre témoignage, le pasteur a dit, le Seigneur m'a rempli d'une paix que je ne peux pas expliquer, pour que je ne réponde rien du tout à cet homme. Il savait que c'était préférable de ne rien dire que de dire quelque chose qu'il regretterait plus tard. Il pensait plein de choses. Les pensées, ça allait partout dans sa tête, comme on peut l'imaginer. Mais il n'a rien dit du tout. Au point où plus tard, il devait suivre le procès juridique de cet homme, puisqu'il était impliqué dans la mort de la fille du pasteur. Il devait aller au tribunal, etc., pour donner témoignage. C'est arrivé au moment où le juge se tourne vers le pasteur. Ils ont écouté les témoignages des uns et des autres. Ils s'attendaient à ce que le pasteur veuille apporter des convictions en plus sur cette personne et dire, moi, je veux dédommagement, etc., etc., etc. Et il a dit non, tout ce que je désire, c'est que cette personne accepte de bien vouloir que je lui rende visite de temps en temps en prison. Et il a regardé, étant assis là, en face de la personne, il dit, j'aimerais également à ce qu'il accepte la Bible qu'on veut lui offrir et qu'il sache que, il dit on parce qu'il parlait au nom de sa femme aussi. qu'il leur pardonnait pour la mort de sa fille. Parce qu'entre-temps, on peut imaginer, le gars, il est bien sobre maintenant, il réalise ce qui s'est passé, il était réellement désolé pour ce qu'il avait fait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas revenir en arrière et défaire ce qui a été fait pour une telle chose. Mais là encore, ce pasteur, de par la suite, pas devant le tribunal, mais devant l'Église, a pu dire, jamais est-ce que j'aurais pu vous dire à l'avance que j'allais pouvoir faire une telle chose envers un homme qui a commis une telle chose envers nous. On ne peut pas savoir, mais quand on est réellement rempli de l'Esprit, il peut nous aider à montrer de la douceur là où notre chair ne veut faire qu'une seule chose, c'est de se faire justice, de se faire valoriser soi-même, de se rationaliser pourquoi c'est justifiable de pouvoir dire et faire et penser ces choses. Alors que le Saint-Esprit dit, non, la douceur, ça fait partie du fruit que je donne à mes enfants. Et les paroles qu'on avait vues de Christ tout à l'heure, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, etc. J'aimerais qu'on lise juste les quelques passages qui sont écrits là. On terminera avec la lecture de ces quelques passages qui nous donnent d'autres perspectives sur la douceur aussi. Ésaïe chapitre 5. Tu as déjà le passage, chérie, ou... Comme ça, je vais chercher Jacques 1 et 3. Ésaïe 5, 20 et 21, s'il te plaît.
Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents.
Ouais, j'aimerais rester sur cette dernière phrase, mais ce n'est pas le but de ce soir. malheur à ceux qui changent la douceur en amertume. Et ça, c'est le cœur naturel de l'homme. Quand il choisit de ne pas montrer douceur, il ira directement vers l'amertume. Jacques, chapitre 1er, versets 21 et 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On a vu ce passage dimanche. Mais là, l'autre aspect de la douceur, dit recevez avec douceur. Parce que là, on a parlé souvent de montrer de la douceur envers les autres. Mais on avait dit également que l'autre partie de la définition du mot douceur, c'était humilité. Et de recevez, parce que c'est exactement le même mot qu'on retrouve en Galates sur dans le fruit de l'esprit. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée. Donc elle est déjà plantée. Donc il est en train de dire que quand on plante quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui est supposé grandir. Hein, quelque chose qu'on arrose, qu'on fertilise, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que on plante. On ne plante pas un caillou. Hein, on peut utiliser les cailloux pour décorer, mais on va planter un arbre, on va planter un buisson, on va planter des fleurs, on va planter des tomates, je ne sais pas. On plante plein de choses, c'est quelque chose qui est supposé grandir et pousser. Là, on a déjà planté la parole en vous. Alors, pour qu'elle puisse grandir et faire son effet, il faut qu'on choisisse de la recevoir avec douceur, qu'on l'accepte avec humilité, qu'on ne soit pas, nous, les ronces qui viennent étouffer cette plante de par notre dureté, mais qu'on l'accepte avec humilité. Le mot, en fait, planter ici, littéralement, c'est le mot greffer. C'est la parole qui a été greffée en nous. Ça, c'est encore une toute autre enseignement que je n'ai pas le temps de voir ce soir. Mais vous comprenez l'image. Jacques chapitre 3, versets 13-18, dit: Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc, de ne pas laisser la sagesse que nous avons nous montrer arrogants, entre autres. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Pardon. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Même toute cette définition dans le 17, hein, de ce que la sagesse d'en haut, de ce qu'elle est, on y voit même dans sa globalité toute la douceur. Elle n'est pas arrogante, fière, orgueilleuse. Elle est pour le bien de l'autre. Elle est tendre, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde. La vraie douceur, la vraie sagesse se montrera doux, voudra montrer du bien envers l'autre. Celui qui n'est pas doux, qui n'a pas cette douceur, voudra se faire valoriser, se faire valoir lui-même, montrer ce qu'il sait, ce qu'il peut faire. Le dernier passage, Galates chapitre 6, le chapitre tout de suite après celui du fruit de l'esprit. On y arrive. Juste le premier verset. Il parle aux chrétiens toujours. Hein. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Un verset que beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens oublient. Ou du moins, ils oublient la deuxième moitié. Ils retiennent seulement, si quelqu'un est surpris en faute, redressez-le. Beaucoup ne connaissent ce verset que de cette façon-là. Redressez-le avec douceur. La volonté, c'est de le redresser dans le but de l'aider à être la personne que Dieu veut qu'il soit, à avoir sa relation restaurée avec le Seigneur. La raison de redresser, ce n'est pas pour montrer la faute et dire à quel point tu es coupable. C'est redresser avec douceur, c'est de pouvoir dire « Non, je ne peux pas te laisser continuer dans ce chemin parce que ça va être, tu vas t'enfoncer de plus en plus, tu vas te faire de plus en plus de mal et je veux t'aider. Laisse-moi t'aider à revenir vers ce que Dieu veut. Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit cela. Est-ce que je peux prier avec toi et pour toi, pour que, etc. » Ce n'est pas pour dire quelle terrible personne tu es d'avoir commis ce péché ou d'avoir fait cette faute, d'avoir fait ceci ou cela. Non. De redresser, déjà le mot redresser, n'est-ce pas? Quelque chose qui est courbé, qu'on redresse, qu'on remet droit. Redresser avec douceur. Et d'ailleurs, souvent, s'il y en a qui luttent avec cela, d'être des personnes comme ça envers les autres, on aime leur rappeler, n'aimerais-tu, toi, est-ce qu'on te redresse avec douceur? Plutôt que de te redresser avec force et sans tact, alors agis envers les autres tel que tu aimerais qu'ils agissent envers toi aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport à la douceur et par rapport à ce qu'on a vu ce soir? Parce que bon, Dieu voulant, la prochaine fois, on verra la maîtrise de soi et ça, c'est pas... Ça, c'est encore une toute autre histoire. Parce que personne ne lutte avec ça.
J'avais une question.
Oui.
Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre la vérité et la douceur?
Ben, la vérité, elle ne change pas. Si c'est, on parle de la vérité de ce que la Bible dit, elle est immuable, elle ne change pas. La douceur, c'est pas de changer la vérité pour qu'elle soit acceptable, c'est de savoir comment apporter cette vérité pour qu'elle ne soit pas abrasive. C'est pas de la vérité, toute vérité que Dieu apporte, j'en ai pas en tête en tout cas. Il n'y a pas de vérité qui devrait être offensante. La seule raison pourquoi je serais offensé par une vérité, c'est parce que j'ai pas envie de la faire. Mais ça, c'est pas la vérité qui est offensante. C'est ma soumission, c'est mon obéissance qui la rend offensante. Mais la douceur, c'est la façon, et la façon qu'on va partager cette vérité, elle sera souvent déterminée par notre motivation. Pourquoi est-ce que j'ai envie de partager cette vérité avec cette personne? Si c'est parce que j'aime cette personne, parce que je lui veux du bien, ma motivation, elle est très différente. Ah, si c'est, comme on dit, l'autre personne qui a un esprit contraire, dès qu'il entend quelque chose qui est faux et il a besoin de le corriger, ben, je ne m'attends pas à ce que cette personne apportera la vérité avec douceur. Mais c'est la motivation de pourquoi je le partage. Et si, je dirais, un pas plus loin, ma motivation première sur pourquoi je devrais vouloir apporter une vérité envers quelqu'un, ce n'est pas lui, c'est est-ce que Dieu veut que je partage cela avec lui? Si je veux être obéissant à Dieu, ben, je fais un acte d'obéissance envers lui que je transmets envers cette personne. Mais c'est parce que si j'arrive à me rappeler cela, ben, ce n'est pas à moi de le convaincre pour qu'il change. Mon travail n'est pas celui de forcer l'autre à accepter cette vérité. Ça, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de partager la vérité avec amour, avec douceur. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Et je n'ai pas à faire le travail du Saint-Esprit. Je ne peux pas. Mais c'est quand on commence à prendre cette charge sur nous et qu'on partage une vérité, on peut commencer avec douceur et qu'on voit que l'autre est réticent et il n'accepte pas. C'est nous qui sommes offensés. Mais comment ça? Mais je lui dis la vérité, il ne me croit pas, mais... Non, mais ce n'est pas ta vérité. C'est la vérité que Dieu nous enseigne, c'est sa vérité. Et toi, tu dois la partager, tu ne dois pas l'obliger à l'accepter. Est-ce que ça répond?
Oui.
Oui, Fred.
Bonsoir, bonjour.